sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Eh bien, le bruit de l'eau masque bien des sonorités furtives. Pourtant, on sait qu'elle est là, tapie dans l'ombre de sa catiche. Elle a déposé toutes les marques de son passage, car la loutre ne se cache pas, ou du moins elle ne se dissimule rien de son passage. Suivre la loutre est un long jeu de pistes, à l'affût des traces sur le sol boueux ou sur la neige. Mais c'est surtout à cette incroyable senteur que dégagent ses pas que l'on reconnaît l'animal. La loutre exhibe ostensiblement son parfum en déposant sur le moindre monticule la signature olfactive de sa présence secrète. Ici, la loutre reste bien la reine des eaux douces. De son petit caquettement répété, elle apaise son proche compagnon et siffle sa progéniture qui joue. La loutre est joueuse et s'en prend au courant, filant agile au cours d'eau. Mais elle habite aussi les marécages et des filets crus et les tumultes des torrents. À vrai dire, il existe même des loutres dans l'océan, ici, sur nos côtes rocheuses, ou dans cet espace vaseux entre la mer et la crique, la loutre égare ses petits pas. Descendant l'eau vive ou s'engageant au cœur des nénuphars, la loutre nous guide dans les eaux propres, à la recherche des tanches, des brèmes, des gardons et des truites. Ailleurs, la loutre va en mer. Elle s'éloigne des rivages et s'aventure dans les forêts marines de kelp. C'est la loutre de mer d'Amérique et du Japon qui montre sa petite bouille arrondie entre les algues brunes du Pacifique et qui sait si bien dénicher en profondeur les crabes et les bivalves. Et puis il y a aussi la loutre marine ou chat de mer qui fréquente les côtes du Chili, mais qui vient dormir à terre. Car les loutres se déclinent en nombreuses espèces, tant le moule constitue une bonne adaptation. Ce qui est étonnant quand on regarde ses pattes trop courtes, son corps fuselé, ou son besoin de se bichonner dans son terrier de paille. Adaptée, dit-on, à la vie aquatique, elle ne ferait guère illusion devant le phoque ou l'otarie. Mais elle craint aussi le renard qui court bien plus vite qu'elle à terre. Alors, à quoi sert la loutre dans les écosystèmes? Sait-on qu'elle constitue une clé des biocénoses, que sa prédation a un effet essentiel sur l'écologie des cours d'eau? Mais il se passe quelque chose encore, car si la loutre vit seule dans nos rivières, d'autres loutres vivent en famille dans les rizières d'Asie. D'autres encore forment des petits groupes, tandis que certaines paraissent farouchement solitaires. Alors aujourd'hui, nous allons nager avec les loutres sur Radio Libertaire, car la loutre connaît les secrets pour vivre avec les autres. Entre mœurs solitaires et vie de groupe, la loutre va nous guider parmi les déterminants de la vie sociale. Et comme la loutre est joueuse et joviale, j'espère que nous allons nous amuser d'apprendre tout cela sur Radio Libertaire. Red down, red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk, I like it like that. Oh, yeah. Talk that talk, walk that walk.
C'était Boom Boom par Johnny Lee Hooker.
Aujourd'hui donc, les loutres du monde. Et en pistant les loutres, nous allons chercher à percer le secret de la vie sociale de ces animaux passionnants. Et pour accompagner cette petite réflexion, j'ai invité dans le studio Marie-Lou Lélias, qui depuis longtemps s'intéresse à la vie de ces petites bêtes.
Bonjour Thierry Laudet. Merci pour cette invitation dans les studios de Science en Liberté pour cette émission consacrée à la loutre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes activités de terrain sur les traces de la loutre d'Europe et amener quelques-unes de mes connaissances sur les loutres du monde. Et pour la prochaine émission, je vous raconterai les péripéties de mon voyage au Brésil.
Mais tu as oublié quelque chose. Tu ne t'es pas bien présenté.
Oui, bah pas du tout d'ailleurs. Je suis psychologue, donc je m'intéresse au comportement humain. Je donne aussi des cours à l'Université d'Angers en psychologie cognitive et psychologie différentielle, mais je m'intéresse également au comportement animal. Ma passion des loutres m'est venue à l'âge de 9 ans.
Ah oui, tu étais déjà bien jeune pour t'intéresser à ces choses-là.
C'est ça, ça m'est venu pendant une visite au zoo, dont je ne citerai pas le nom, qui fait une célèbre émission sur une chaîne de télévision.
Voilà, voilà, on n'en parle plus, et donc tu as regardé les loutres.
J'ai regardé les loutres. À cette époque, ils avaient des loutres du Canada et maintenant, ils ont des loutres d'Asie.
Et donc, ça, c'était ton aventure en France. Mais quelle était donc ton aventure au Brésil ?
Au Brésil, bah, je pars cet été dans un centre d'études et de conservation de loutres néotropicales à Florianópolis, qui est sur l'île de Santa Catarina, au sud de Brésil, qui est à environ une heure de Rio de Janeiro, en avion, hein, pas à pied. Et là-bas, je serai avec une équipe de scientifiques qui sont spécialisés sur la loutre néotropicale. Et on fera des prospections loutres sur l'île et dans les mangroves autour de Florianópolis.
Oui, parce que ça reste un paysage remarquable.
C'est ça. Et donc, on fera des études éthologiques. L'équipe, donc sur place, il y aura des vétérinaires, des soigneurs animaliers, des scientifiques qui viennent d'université. Ils m'apprendront donc des soins, le nourrissage, le lieu avec des petits loutrons orphelins qu'ils ont en captivité au refuge. Mais je ne vais pas vous en dire trop. En fait, c'est une accroche pour vous appâter pour notre prochaine émission. Et en plus, on vous parlera tout à l'heure de cette loutre néotropicale. Maintenant, on va traiter des loutres présentes dans le monde.
En effet. Parce qu'en fait, on ne devrait pas dire la loutre, mais les loutres. Elles sont très nombreuses, elles sont plurielles et tout ça dans une très grande famille.
C'est ça. Alors, les loutres, elles appartiennent à l'ordre des carnivores, à la famille des mustélidés, comme les martres et les blaireaux, à la sous-famille des lutrinés. Et 13 espèces de loutres existent dans le monde, qui ont été rangées en 6 genres différents. Donc c'est un peu compliqué, on va reprendre tout ça. Ces animaux, ils ont donc une alimentation carnée, notamment piscivore.
Ils mangent des poissons.
Oui, ils mangent du poisson. Et même si ça peut être complété par des invertébrés ou des fruits, ou parfois un petit pigeon qui passe hein, par chez nous. Donc nous avons dit qu'il existe 13 espèces de loutres qui couvrent quasiment la totalité du globe, hormis en Australie où on n'en retrouve pas. Leur forme reste assez semblable. On peut les distinguer par rapport à leur taille, leur coloration ou la densité de leur poil et la forme du museau. Par exemple, si on prend la loutre géante du Brésil, qui vit notamment dans la région du Pantanal en Amazonie ou sur l'Amazone, elle pèse environ 35 kg pour 1m80.
C'est une grosse, grosse bête hein, déjà. Hein.
Oui, bien plus grande que moi. Elle a une activité diurne et de groupe. Quant à la loutre de Sumatra, qui est présente en Asie du Sud-Est, elle pèse en moyenne 5 kg pour 1m10 et elle a un mode de vie solitaire.
Donc, à part la longueur, c'est un gros chat, quoi.
Un gros chat, oui, c'est ça. Donc on voit bien que c'est deux espèces qui sont plutôt différentes pour le même animal. Mais finalement, on n'a pas décrit les caractéristiques principales de cet animal. Tous les auditeurs n'ont peut-être pas vu de loutre, ou alors n'en ont qu'un souvenir lointain d'une sortie zoo.
Oui, parce que la loutre est en effet reconnaissable à sa physionomie particulière, notamment parce qu'elle est parfaitement adaptée à la vie aquatique.
Oui, parce que leur corps est allongé, avec une queue effilée, les pattes sont plutôt courtes et munies de doigts palmés. Alors bon, pas toujours.
Oui, ça varie aussi selon les espèces, mais globalement, c'est quand même une physionomie parfaitement coulante pour pouvoir fendre l'eau douce.
Oui, c'est ça. On en reparlera tout à l'heure. Leur pelage est très dense, ce qui les rend imperméables à l'eau. L'espèce Loutra loutra est isolée du milieu aquatique par du poil de bourre, donc la sous-couche, dont la densité y est de 50 000 poils par centimètre carré. Et on y retrouve le triple chez la loutre de mer.
Ah ouais, c'est une forte densité.
Oui, tout ceci est recouvert par le poil de jarre, qui est moins dense, mais plus long, jusqu'à 3 cm. Chez le loutron, qui est le bébé loutre, la fourrure est encore plus dense. L'air qui est retenu entre les poils les empêche de couler, et même de plonger tout court, ce qui est très pratique vu que les jeunes ne savent pas nager à la naissance. Et la couleur du poil varie en fonction des espèces.
Alors on peut dire que pour un mammifère, c'est quand même un poil très dense. Et c'est aussi pour ça qu'on a longtemps chassé la loutre, puisqu'au Moyen-Âge, on fabriquait avec ces poils très denses des bottes qui étaient suffisamment étanches avec la peau de loutre
oui,
et chaudes pour l'hiver. Bon, ce n'était pas la caractéristique la plus passionnante du Moyen-Âge, mais en tout cas, c'était une utilisation assez fréquente à l'époque.
C'est horrible. Donc les bottes de l'époque, hein, elles pouvaient être finalement de brun très foncé à un brun très clair, avec parfois des taches ou des parties blanches. Alors, la caractéristique intéressante de la loutre parmi les mustélidés, c'est qu'elle a les mains et les pieds palmés. Et donc ça permet de les reconnaître lors des prospections, puisque les empreintes laissées sont particulières, mais elles sont assez difficiles à trouver.
Oui, il faut un support qui soit suffisamment stable pour que qu'on puisse voir la trace sur la vase. Et on peut reconnaître malgré tout le doigt qui est caractéristique hein, sur la vase ou sur la neige. C'est un petit ovale avec une petite griffe en V sur le devant. Et c'est très différent par exemple des traces du grand blaireau avec ses 5 doigts en rond ou celles des petits mustélidés comme le putois ou la martre. Mais en fait, généralement, quand on voit les traces, toutes les doigts ne marquent pas. C'est pas toujours simple de l'identifier, même à la taille.
Oui Thierry, c'est comme tu disais, hein, ça dépend du sol. Sur le sable ou le gravier, c'est plus difficile que dans la vase ou sur la neige, qui est vraiment meuble. Mais les traces sont typiques et faciles à identifier quand elles sont bien marquées. Les pattes à l'avant donc, sont dotées de 5 doigts, porteurs de griffes courtes, qui sont reliées entre eux par la palme. Et le pouce est légèrement excentré, ce qui permet de reconnaître soit la patte gauche ou soit la patte droite, lorsqu'elle laisse des traces qui sont entières, par contre. Et les pattes arrière sont plus grosses, plus longues, et elles sont munies uniquement de 4 doigts. On reconnaît aussi les pelotes digitales et plantaires. Les pelotes digitales, donc, ce sont en fait les coussinets sous les pattes, comme peuvent avoir les chiens ou les chats. Elles sont relativement longues pour les doigts et on en dénombre plusieurs sous la sole plantaire.
Et puis les loutres qui ont des pattes courtes et fortes, parce qu'elles marchent moins bien, bien sûr, que quand elles nagent, laissent des marques aussi particulières à cause de ça.
Oui, oui, et parfois même elles glissent sur les pentes quand il s'agit de vases ou de neige, par exemple.
Ça fait des traces de glissade.
Ouais, ça fait des traces de glissade. Elles évitent de courir, en fait. Il est vrai qu'elles sont plutôt taillées pour la nage, donc parce qu'elles savent plonger et rester. Elles restent longtemps sous la surface et se déplacent dans l'eau en ondulant leur long corps tout fin en utilisant leur queue comme un gouvernail.
Et oui, parce que la loutre, c'est avant tout une habitante des rivières, des marais et même parfois au bord des océans.
Mais elles sont bien différentes les unes des autres. Maintenant, je vais vous dévoiler une particularité pour chacune des loutres, une caractéristique qui m'a semblé étonnante et différenciant chaque espèce. C'est un petit peu ce que moi j'appelle l'instant closer.
Voilà.
Alors, j'ai pas fait la paparazzi, je l'ai relevé comme ça. Alors, pour chacune des loutres, la loutre de Sumatra a le nez poilu.
Haha.
Oui, la loutre à joues blanches du Congo est la seule à ne pas avoir de palmes entre les doigts et de griffes. Elle a comme de petites mains d'humain, on retrouve parfois des ongles. La loutre à cou tacheté aurait une forme naine en Guinée-Bissau. La loutre à pelage lisse a une activité diurne, mais pratique la pause de midi.
Faut savoir s'arrêter.
C'est ça, faut savoir s'arrêter. La loutre néotropicale est celle qui a la plus longue queue, d'où son nom.
Forcément. Son nom Longicodis.
Oui. Ou son nom également, la loutre à longue queue.
Oui, tout bêtement.
Oui.
Les loutres... Il y a les grosses.
Il y a les grosses. Les loutres géantes du Brésil sont dotées de petites taches blanches sous le menton qu'elles se présentent pour se reconnaître.
Ah ouais, t'as la tache, t'as pas la tache.
T'as la tache, t'as pas la tache, on n'est pas de la même famille, tu ne passes pas. La loutra loutra possède un nez en forme de W qu'on appelle un rhinarium. On retrouve la Lontra provocax du niveau de la mer jusqu'à 1000 mètres d'altitude au Chili. La Lontra felina ou loutre marine est le plus petit mammifère exclusivement marin sur Terre. La loutre de mer, alors à ne pas confondre avec celle que je viens de citer, Enindra lutris, possède des glandes cutanées qui sécrètent de l'huile permettant d'imperméabiliser son pelage.
Et c'est celle qui a le pelage le plus dense, en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Exactement. Et c'est très pratique d'avoir ces glandes pour l'infirmer. Oui. Et là, celle-là, je l'adore. Des prospections concernant la loutre à joues blanches du Cap ou Aenix capensis capensis, inventoriées entre 3 et 10 traces journalières de son passage sur l'archipel de Bijagos. Mais un jour, après la saison des pluies, il y a eu un regroupement très important. Une centaine de traces a été retrouvée. Et il n'y a pas d'explication. We'll be right back.
Nightwish interprétait Amaranth.
Bonjour, nous revoilà sur Radio Libertaire pour parler des loutres du monde. Et je suis accompagné, toujours accompagné par Marie-Lou Lélias qui va développer notre discussion sur ces petites bêtes et qui vont nous en apprendre plein, notamment sur les secrets de la vie sociale. Mais tout d'abord, pour bien reconnaître les loutres, il faut les mériter. Imaginons notre venue au petit matin sur le bord des eaux douces, les oiseaux se réveillent en toute discrétion. Nous nous rapprochons des rives pas à pas, car il faut explorer les pierres et les buttes pour trouver des indices secrets de ce qu'elle a fait dans la nuit.
Oui Thierry, la loutre est crépusculaire et nocturne chez nous. La loutre est d'abord discrète et se déplace plus souvent la nuit. Mais ailleurs, elle peut s'activer dans la journée lorsqu'elle est sur des lieux tranquilles.
Eh oui, on peut parfois l'observer même en plein milieu de journée sur les marais inondés, comme par exemple en Grande-Brière dans l'Ouest, ou encore en Espagne ou en Écosse, où là on la voit de temps en temps nager et les observations ne sont pas très rares.
Effectivement, alors là je vais pouvoir vous parler de mes découvertes naturalistes. Alors la découverte naturaliste, elle se fait essentiellement par la recherche de traces, c'est-à-dire d'empreintes de pattes, donc comme on le voyait tout à l'heure, mais c'est rare de pouvoir tomber dessus et d'empreintes. La loutre étant plutôt farouche, à part bon, l'espèce de la loutre géante, discrète et nocturne en fonction des espèces, son observation se fait le plus souvent de manière indirecte. L'empreinte, c'est une crotte.
Tout simplement.
Tout simplement. Lors des prospections, que ce soit à pied ou en canoë, c'est ce qu'on va chercher en premier. C'est ce qui est le plus facile à trouver, car c'est un marquage volontaire.
En fait, elle dépose des tout petits paquets, hein, ce n'est pas une grosse crotte, c'est au contraire des petits paquets qui montrent bien que c'est un marquage, parce qu'il y a une odeur caractéristique. Enfin, tu vas nous raconter tout ça.
Oui, des petits paquets qui puent, et je vais vous raconter tout ça. Parce qu'en fait, il faut savoir l'identifier et ne pas se tromper avec la crotte d'un autre animal, et c'est tout un apprentissage au départ.
Il faut aller à l'école des crottes de loutre.
À l'école, mais exactement. On s'inscrit dans une association de crottes de loutre. Et l'aspect est assez particulier, c'est pas gros, hein. Ça change vite de couleur en fonction de la fraîcheur, c'est foncé quand c'est frais, ça se cendre un peu quand ça vieillit en devenant tout sec. En fait, c'est l'odeur qui donne un deuxième indice, donc il vaut mieux mettre le nez au-dessus, ça a plutôt une odeur de poisson périmé. Certains disent qu'il y a une odeur de miel, moi j'ai jamais trouver ça.
Oui, bon, là, t'exagères un peu. C'est très parfumé comme crotte, quand même, comme odeur, puisque c'est les glandes anales qui font ça. Et pour la petite histoire, Marie-Charlotte de Saint-Giron, qui était une naturaliste du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, disait que l'épreinte de loutre sentait le tabac mielleux.
On ne citera pas la marque.
Après, c'est sous sa responsabilité à elle. En tout cas, l'odeur, à mon avis, n'a rien à voir avec les senteurs d'une martre ou d'un vison. C'est moins âcre aussi que celle du putois, ce qui fait qu'on peut la reconnaître, bon, pas tellement de loin. Il faut quand même, comme tu disait, mettre un peu le nez dessus. Alors c'est dû à l'activité des glandes anales et puis de glandes abdominales aussi qui vont signer l'identité spécifique et l'identité de chaque loutre. Il faut reconnaître que cette odeur qui quand même est très particulière, forte, parfumée, aromatique. Ce qui est quand même assez exceptionnel pour une crotte, non ?
Oui.
En tout cas, une fois identifiée, l'odeur est tellement caractéristique qu'en général, on ne l'oublie pas.
Oui, c'est vrai, en effet. L'odeur, c'est ce qui rend reconnaissable l'empreinte, hein. Car autrement, c'est juste un petit morceau déposé sur une grosse pierre ou une butte, un barrage ou sur un gué, souvent dans un endroit assez bien visible en hauteur pour marquer son passage.
Parce que c'est quand même ça l'objectif, quoi. Elle dépose ça dans des endroits remarquables à chaque fois. Oui. Et normalement, entre l'endroit remarquable et l'odeur, un bon naturaliste sait identifier une loutre.
Oui, on dit qu'elle marque, hein, d'ailleurs. On les retrouve donc sur les berges des cours d'eau. Les affluents, les rivières à des bilans, les canaux, les lacs et les marais. Sur une souche ou un rocher assez proéminent, généralement pas trop haut au-dessus du niveau de l'eau. Et elles viennent par ce procédé marquer leur territoire. L'empreinte, si elle est posée sur de la mousse, elle peut être identifiable par une trace d'urine séchée repérée à côté. Donc ça fait des traces jaunes, en fait, qui dégoulinent, quoi.
Oui, on parle d'empreinte, parce que ça vient en fait du vieux français qui signifiait « faire des petits bouts ». Les tout petits bouts. En effet, la crotte de loutre, c'est souvent des petits bouts qu'on trouve, alors que c'est un animal qui pèse quand même 9-10 kilos chez nous. Hein, c'est pas tout à fait petit. Et c'est beaucoup plus petit que la crotte d'un chat. Hein, évidemment, c'est vraiment des petits bouts qui sont laissés. Et en outre, elles ne laissent effectivement pas leurs empreintes n'importe où, puisque ce sont des signatures olfactives déposées sur les lieux de leur activité pour marquer leur déplacement et les lieux qui les intéressent, elles.
Qui les intéressent, elles, c'est ça. Donc les empreintes, hein, ensuite, bah, l'idéal pour bien les reconnaître, c'est de mettre les mains dedans. Comme ça, on est sûr d'y retrouver des arêtes et des écailles de poisson.
Vous voyez à quoi passent leur temps les naturalistes, hein. Ils sentent les crottes et ils mettent leurs mains dedans.
Et on met les mains dedans, mais c'est bien de mettre des gants quand même.
Oui, c'est mieux.
Et les passionnés de crottes de loutre pourront même ramener ces empreintes s'ils souhaitent étudier les écailles et les arêtes qui s'y retrouvent dedans. En fait, le contenu des empreintes peut expliquer l'intérêt trophique saisonnier et également géographique, puisque nous traitons différentes espèces dans l'émission d'aujourd'hui.
Et en découvrant les empreintes, on peut donc étudier la vie des populations de loutres.
Et oui, car l'intensité des marquages se distingue en fonction des saisons. Il va s'accentuer à l'automne et en hiver, où les empreintes sont nombreuses et plus souvent fraîches. Donc là, quand on met les mains dedans, on en a plein les
on
doigts.
Le sent.
Hein. Voilà. À partir du printemps, les empreintes sont plus rares et un nombre grandissant d'empreintes présente un état moins frais qui augmente au cours de l'été. Ces fluctuations saisonnières démontrent que la densité de marquage ne peut pas uniquement être corrélée à la densité des populations des loutres. Ce sont les mobilités des populations, hein, des périodes de reproduction en automne qui sont associées à une diminution des ressources alimentaires qui créent ces marquages.
Oui, ensuite ça permet aussi de faire des suivis de population, de déterminer des répartitions, est-ce qu'il y a de la loutre dans la région ou pas, mais aussi la répartition dans des espaces plus petits. Alors comment est-ce qu'on opère pour essayer de standardiser toutes ces méthodes pour arriver à une prospection et savoir où sont les populations de loutre?
Alors, tout le monde ne le fait pas. Mais les associations, généralement, on utilise un protocole. Donc le protocole, c'est celui qui est défini par l'UICN.
Ah, l'UICN.
Qu'est-ce que c'est l'UICN? C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc c'est assez compliqué à définir à la radio, peut-être. Donc il définit des mailles carrées de 10 km sur 10 km sur une carte géographique. Donc ça fait tout un découpage. Et lorsque nous prospectons cette maille, on part d'un point précis, il en faudra 4, et nous marchons sur 600 mètres sur un seul côté de la rive. Et si on trouve un indice, la maille, elle est notée positive. Et au prochain passage, en fait, il faudra repasser exactement au même endroit. Ensuite, viennent la notation des informations collectées pour chaque équipe. On collecte la date, la commune, le nom de la commune, hein. Les coordonnées géographiques, donc là c'est mieux s'ils sont coordonnées GPS, des fois ça capte pas. Le nom du cours d'eau, le côté de la berge prospectée, soit si c'est la rive droite ou si c'est la rive gauche. Et puis s'il y a des indices ou pas, leur nature et leur aspect, leur fréquence, leur contenu si c'est possible, hein, si on a bien mis les mains dedans, et la nature du support de marquage.
Oui, c'est donc une méthode très précise qui doit être répétée pour permettre de reconnaître la présence des populations de loutres et leur répartition géographique.
C'est ça.
Alors, c'est parfois plus difficile sur le terrain, parce que dans un marais, par exemple, c'est plus difficile de suivre exactement les rives. Il y a parfois des canaux qui viennent interférer.
Oui.
Mais en suivant le bord des eaux, on finit toujours par repérer sa présence si elle est là, car la loutre reste quand même un animal assez rare. Hein, on n'en trouve pas partout en France, dont les populations ont d'ailleurs failli disparaître. Elle a beaucoup régressé. Dans de nombreux endroits, elle a même complètement disparu. Comment est-ce qu'elles se répartissent, les loutres d'Europe, aujourd'hui?
Alors, la loutre d'Europe, on la retrouve sur la façade atlantique de la France, entre la Bretagne et le Pays Basque, qui est dans le Massif central aujourd'hui. Elle a disparu de près de 60 départements français, mais fait maintenant une timide reconquête. Hein. Les populations du massif central s'étendent doucement, et il existe aujourd'hui des liens entre les loutres du centre et celles de l'ouest. Elle atteindrait la Touraine et la Sarthe, et elle dépasse des Hautes-Pyrénées. Elle est présente sur toutes les rivières et les marais disponibles avec une faible densité. Il faut environ 5 à 25 km de rive pour accueillir une famille de loutres. et s'il y a assez de poissons à manger.
Oui, parce que s'il n'y a pas de quoi se nourrir, évidemment,
et bah, y a pas de loutre.
Ça va encore étendre son territoire, la taille de son domaine, elle sera beaucoup moins stable.
Bah oui, c'est ça aussi. Mais la répartition connaît encore des vides importants, car cela dépend de la bonne qualité des rivières, évidemment. D'ailleurs, la loutre fréquente bien plus les petites rivières et les ruisseaux que les grandes rivières, et sa présence est liée à la qualité piscicole, mais aussi chimique des rivières. Sa présence est en quelque sorte un bon indicateur de la qualité des eaux douces.
Oui, c'est vrai que les petits ruisseaux et les petites rivières qui sont principalement le lieu d'habitat des loutres ont souvent été un peu négligés. Les chasseurs disaient même que comme ils piégeaient les loutres sur ces petits cours d'eau, bah, ça voulait dire qu'il en restait beaucoup sur les grandes rivières et les fleuves, et donc il n'y avait pas de problème. Mais comme elle vit jamais sur les fleuves, comme la Loire par exemple, elle peut passer, mais elle ne s'installe pas.
Non.
C'est pour aller s'installer sur les petits affluents. Oui. Évidemment, en disant qu'on pouvait tuer les loutres sur les petites rivières, eh bien, on a massacré les populations loutrines assez rapidement. En fait, on peut même parfois la trouver sur des petites mares ou des étangs s'il existe autour un réseau important. Elle peut occuper des petits ruisseaux minuscules. Tu te souviens,
on est
allé voir ça ensemble. C'était vraiment un petit filet d'eau qui coulait mal. Et pourtant, grâce au barrage à côté et de petits étangs à côté, eh bien, la loutre était présente sur l'ensemble du cours d'eau. Bon, après, c'est assez rare quand même.
Oui. Bah oui, vu qu'elle fréquente les marais et se contente facilement des petits canaux et autres fossés, ça compte vraiment, c'est la diversité piscicole et la qualité des eaux qui sont pas polluées. Dans un marais eutrophe, elle consommera des anguilles, des grenouilles et des écrevisses. Dans une rivière lentique, elle chassera des gardons ou des tanches. Et dans un cours d'eau oligotrophe, elle attrapera des truites et des verrons. Elle mange aussi des fruits comme les myrtilles et des oiseaux en petite quantité. Elle a seulement besoin que l'eau ne soit pas polluée. Ensuite, elle adapte la taille de son territoire à la densité des poissons. Un petit domaine plus circulaire en lac ou en marais lorsqu'elle mange des anguilles et un long territoire de 20 km sur des rives rapides lorsqu'elle mange des truites, par exemple.
Oui, c'est clair que sur le lac de Grandlieu, par exemple, les densités sont beaucoup plus fortes que ce qu'on peut trouver après sur les rivières de Bretagne ou du Massif central.
Oui.
En fait, les loutres, elles adoptent quasiment tous les habitats disponibles.
Oui, tout.
S'ils sont aquatiques.
Bah, tous les habitats aquatiques, oui. Parce que son activité se concentre d'une manière générale, on va dire, sur la bande qui se situe du niveau de l'eau et la berge. Dans la plupart des régions où on va la retrouver, son apparition va être corrélée avec la végétation qui se situe sur la rive. Donc ça va démontrer là l'importance de la végétation ripariale pour les loutres. Il lui faut donc des gros arbres dont les racines vont accueillir les catiches.
Oui, alors la catiche, c'est un endroit un peu particulier, mais elle ne se réfugie pas que là.
Non, elle se réfugie pas que là. En fait, la loutre, elle se réfugie dans la journée dans des endroits plutôt tranquilles pour dormir. L'abri, donc ça peut être un buisson, un vieux pneu. Oui, un vieux pneu, pourquoi pas. Mais on en voit. Hein.
Ah oui.
Un bout de barque renversée. Donc là, on en voit beaucoup sur en bord de Loire.
Voilà, par exemple.
Sur les affluents. Une souche d'arbre en bordure d'eau qu'elle utilise pour se reposer. Cet abri, il n'est que partiellement protégé.
Oui, parfois, c'est simplement derrière un buisson, derrière un arbre pour la journée. Dans les joncs aussi, hein, on peut la trouver dans les roseaux, par exemple.
Dans des roseaux.
Elle va s'endormir juste tranquillement là, mais elle est très attentive.
Elle est très attentive. Mais elle a également besoin de catiches qui va lui servir lors de ses moments d'inactivité ou pour des moments plus discrets.
Ah ah.
Pendant la période de reproduction.
Ah bah oui, on fait pas ça devant tout le monde.
Bah non, on fait pas ça devant tout le monde.
Et puis après, il y a les petits...
Il y a les petits à cacher.
Ouais.
Et là, il est d'usage donc, de nommer catiche pour ces endroits qui sont bien plus discrets pour élever ses loutrons. Donc ça va être un terrier, ou celui d'un autre animal, hein, parce que la loutre ne creuse pas, ou alors une cavité entre les racines des arbres, ce qu'on
et
disait
dans cette
tout
cavité,
à l'heure.
Elle va pouvoir se catire, ce qui vient encore du vieux français, qui veut dire se recroqueviller. Bon, même si effectivement là, elle passe plus de temps à allaiter ses jeunes qu'à dormir.
Aquí en la playa María, cómo se goza. más que en la playa María, tú me provocas. Ay María, ven, ay María, ven, ay María, ven, ay María, ven. Dame una mano María, dame la otra María, dame el otro María que a mí me toca. En la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Aquí en la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Dame una mano María, dame la otra María, dame el otro María que a mí me toca. Ay María, ven, ay María, ven,
María,
ay María, ven, ay María, ven, ay María, ven,
María,
ay María, ven, ay María, ven, ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven.
María,
ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven.
María,
ay María, ven. 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 Dame una mano María, dame la otra María, dame el otro María que a mí me toca.
Compay Segundo avec Maria en la Playa.
Nous voilà revenus sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et dans notre émission de Science en Liberté pour évoquer une habitante des eaux douces, la loutre. Bon, en fait, après avoir parlé de la loutre d'Europe, nous allons un peu glisser maintenant vers les autres espèces. Mais il faut en savoir davantage sur ce magnifique animal, témoin de la qualité des habitats dulcicoles et de la bonne santé des eaux douces. Écoutons-la parler. C'est un petit cri très faible. Alors, Marilou, ce qui fait de la loutre un excellent indicateur biologique, c'est aussi le fait qu'elle est un top predator.
Oui, Thierry. Alors, avant de répondre à cette question, nous allons nous retrouvons en fait sur les rivières 9 espèces qui s'y déplacent. Donc, pour les citer, il y a la loutre à joues blanches du Congo, la néotropicale, celle de Sumatra, la lontra provocax, la loutre à cou tacheté, celle à pelage lisse, la loutre à loutra de chez nous, la loutre géante et la loutre du Canada. Mais l'aire de répartition concernant le milieu aquatique est assez vaste. La loutra loutra peut occuper des affluents, des fleuves et rivières à faible courant, des canaux, des ruisseaux étroits et peu profonds, facilitant la pêche aux poissons. On l'a déjà aperçue dans des torrents à fort débit, mais elle n'y reste pas. Les fleuves à courant libre pouvant entraîner des difficultés de pêche, de nage, de fatigue et voire de noyade.
Ouais, c'est quand même beaucoup plus difficile de nager à contre-courant dans des torrents.
Ouais, ça c'est sûr. Et il y a même des études, notamment au Sri Lanka, qui ont démontré qu'on ne la retrouvait pas non plus dans les estuaires. Hein, ça peut être expliqué de manière similaire parce que les zones fluvio-maritimes sont considérées comme exposées. Ça a créé trop de remous pour les petites loutres dues au courant avalant et aux marées montantes. La salinité et la pollution ajoutent leur effet à l'inexistence des lutrinés dans ces espaces. Dans les habitats riverains, une végétation adéquate sous forme d'herbes longues, de roseaux et de buissons denses, d'arbres en surplomb et de grands rochers est essentielle pour couvrir les périodes d'inactivité. Mais les loutres plus grosses comme la loutre géante du Brésil ou la loutre à longue queue habitent dans les estuaires ou dans les fleuves à fort courant comme l'Amazone, les rivières, les lacs, les mangroves et les lagunes. La loutre à longue queue, Lontra longicaudis, se déplace parfois dans les rigoles entre les champs de canne à sucre. Bon, elle ne les mange pas, hein, malgré la présence humaine. Et la loutre Aonyx capensis est présente partout du moment qu'elle ait accès à l'eau douce. C'est indispensable, même si elle se déplace parfois au milieu marin. Les rivages doivent être rocheux. On les retrouve dans les fleuves, dans les estuaires, dans les mangroves et parfois presque asséchées. Elles se déplacent également dans les villes, dans les rivières à forte eutrophisation.
Alors après, elle n'aime pas non plus trop les estuaires qui sont trop exploités avec des bateaux qui viennent tout le temps, etc. Enfin, évidemment, ça peut la déranger. Mais elle est capable de se déplacer donc, dans les petits ruisseaux, elle les explore, les canaux, tout ça à la recherche de ses proies.
Oui, c'est ça. La loutre à coutachetée habite des habitats d'eau douce où l'eau n'est pas saturée, non polluée et riche en poissons de petite et moyenne taille. Bien qu'elle soit bien que commun dans les grands lacs d'Afrique centrale et orientale, elle se retrouve également dans les cours d'eau, les rivières et les bassins versants jusqu'à une altitude de 2500 mètres. La loutre à coutachetée occupe de 6 à, alors pour être très précis, 27,4 km de rivière et vivent en groupe de 2 à 4 individus autour d'une femelle.
Ça, c'était en Afrique.
Exactement. Pour la loutre à pelage lisse du Pendjab, on sait que l'espèce préfère les zones humides et elle est largement distribuée le long de la rivière Indus. C'est un mammifère nocturne qui est adapté à un mode de vie semi-aquatique et qui se nourrit principalement jusqu'à 96%.
Très précis.
Voilà, très précis aussi. Soyons scientifiques. Hein, sur les poissons. Les animaux forment des couples monogames. Et la gamme de l'habitat varie de 7 à 12 km² en fonction de la disponibilité des aliments et d'autres attributs fondamentaux de l'habitat. La fragmentation de l'habitat, la chasse aux pots et le manque de sensibilisation du public en général sont les principales menaces pour ces espèces.
Alors en effet, il faut évidemment mieux connaître la loutre pour pouvoir la protéger et la conserver, parce que si la loutre présente, ça veut dire que les poissons sont sains et que les rivières sont encore bonnes, et que quand la loutre n'est plus là, il faut évidemment tenir compte de cette absence en devinant que c'est bien un indicateur sur la suite des événements. Car globalement, les loutres sont des prédateurs aquatiques qui sont donc très importants pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes.
Oui, il faut le savoir. On sait tous que la loutre consomme principalement des poissons. Mais elles ne nagent à leur allure et les poissons savent très bien éviter leurs prédateurs. La loutre se contente donc d'attraper les poissons les plus lents. Et comme tous les prédateurs, elle va chasser les animaux maladroits, faibles et plutôt malades, effectuant un rôle de vétérinaire des eaux douces, finalement. Elle réduit l'impact des épidémies et des maladies sur les populations de poissons.
Oui, puisqu'elle mange les poissons les plus malades.
Eh bien, c'est ça. Et même si elle est capable de capturer des truites et des vérons, elle vagabonde pour approcher les poissons les plus mobiles, les moins mobiles par contre, puis fonce sur eux. Elle dispose aussi de vibrisses, les moustaches, qui lui permettent de fouiller la vase et de capturer les proies cachées.
Oui, la loutre sait aussi adapter son régime alimentaire en fonction de son environnement. Par exemple, en Espagne, les chercheurs ont découvert que la loutre avait complètement changé son alimentation après l'arrivée des écrevisses américaines, notamment l'écrevisse de Clark, hein, qui a été importée accidentellement en Europe et qui s'est imposée au point de devenir dans les marais une espèce invasive. Eh bien, la loutre s'est mise à en consommer en très grosse quantité. On trouve des traces de ses festins un peu partout sur les rives du marais. Alors évidemment, ça permet de rééquilibrer les écosystèmes et ça a diminuer l'impact des populations d'écrevisses qui pouvaient avoir lieu sur la faune autochtone.
Bah en effet, Thierry, la loutre est un top prédateur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle se situe tout en haut des réseaux trophiques. Elle a peu de prédateurs et, plutôt par accident, elle se défend bien contre le loup et sait éviter les ours. Dans l'eau, c'est la patronne, régulant les populations de poissons. Elle consomme les proies et les poissons les plus abondants et sait parfaitement changer de proie quand celle-ci diminue. Située en haut de la chaîne alimentaire, elle réduit les proliférations et a un effet régulateur très important.
Oui, puisqu'en fait, comme elle va consommer ce qui est le plus abondant et le moins mobile, à chaque fois ce qu'elle va trouver, ça permettra de faire diminuer les populations de proies qui, qui prolifèrent, et au contraire, ça permettra d'éliminer les animaux malades, réduisant, comme tu l'as dit tout à l'heure, les maladies, donc ça rééquilibre totalement. Voilà. Et on a même pu montrer que la présence de la loutre était favorable aux poissons. Alors, longtemps, les pêcheurs n'ont pas cru, mais en fait, avec un rôle qu'elle a sur la faune piscicole, elle disperse les proies, elle favorise donc la cohabitation des espèces, ça rend les cours d'eau beaucoup plus riches. Elle favorise aussi les oiseaux nicheurs sur les rives, même si évidemment elle peut en manger un ou deux, mais les oiseaux vont s'habituer à se placer dans des endroits qui vont être plus discrets. Et elle bénéficie même aux mollusques. Alors on ne sait pas trop comment, mais enfin, c'est évidemment parce que c'est une...
Aux mollusques.
Voilà, c'est la clé de voûte de tout un ensemble d'écosystèmes de rivières. Et donc, en s'arrangeant pour disperser les proies, elle participe à toute la santé de la rivière. On parle d'une espèce, une keystone species, c'est-à-dire une espèce clé de voûte pour l'ensemble de l'écosystème. Elle est en fait indispensable au fonctionnement des petites rivières.
Oui, et aussi dans les marais et dans les mangroves, parce que la loutre est un carnivore supérieur des zones humides et elle se nourrit principalement de poissons, hein, on a vu jusqu'à 96%, et parfaitement capable de changer ses habitudes et de réguler ses proies, elle est donc considérée comme un indicateur approprié du niveau de pollution dans une zone humide et elle est essentielle à la régulation des biocénoses. On dit que la loutre, elle est parfaitement adaptée à un mode de vie aquatique.
En fait, ce n'est pas parce qu'il y a de la loutre qu'il y a moins de poissons, mais c'est parce qu'il y a moins de poissons que parfois il n'y a plus de loutre. Hein. C'est parce que la pollution est trop présente.
Oui.
Mais il existe aussi des loutres capables de nager encore beaucoup plus loin que les rivières. Ce sont les fameuses loutres marines ou loutres de mer. Là, elles vivent parfois à proximité des otaries, des phoques, des requins. Mais évidemment, elles vont montrer une écologie très différente.
Oui, beaucoup d'espèces de loutres peuvent fréquenter le bord de l'océan. La loutre d'Europe peut vivre sur les côtes rocheuses. Par exemple, en Écosse, elle s'aventure un petit peu en mer. La loutre du Canada sait aussi profiter des ressources marines et chasse sur les côtes rocheuses, formant même des petits groupes. La loutre de Sumatra occupe des mangroves et quelquefois vagabonde dans les eaux côtières et le delta du Mékong.
Oui, on retrouve aussi la loutre africaine du Cap, hein, Onyx capensis, dans les eaux marines ou dans les estuaires. Mais en fait, en général, elle s'aventure quand même pas très très loin. Ça reste sur une petite bande côtière, sur la côte elle-même. Alors que pourtant, il existe d'autres loutres qui vont vivre quasiment dans l'océan.
Oui, Thierry. La première de ces loutres est la loutre marine. Lontra felina est l'unique espèce du genre Lontra que l'on puisse trouver dans un habitat marin. Elle vit depuis les côtes du Pérou jusqu'au Chili. Et elle utilise les côtes rocheuses et les plages sur environ 4 à 5 km de côte. Elle pénètre sur environ 30 à 50 mètres dans les terres. C'est très peu. Elle vit vraiment sur les rivages. La loutre marine peut en revanche s'éloigner sur plus de 150 mètres du rivage pour chasser en mer sans délimiter des territoires entre les sexes.
Ah oui, c'est tout à fait étonnant. Hein. En fait, il existait au 19e siècle un wison de mer sur les rivages du Canada qui semblait avoir une vie assez semblable. Mais comme il a disparu au début du 20e siècle, on n'en sait pas grand-chose. En plus, ce n'était pas une loutre.
Hein. Un wison de mer.
Voilà, cela dit, on sait qu'il restait à terre quand même, lui, plus de 90% de son temps. Alors que pour la loutre felina, la loutre marine dont on vient de parler, c'est plutôt l'inverse. Hein. Elle est quand même très présente en mer.
Oui, bah, la loutre marine, elle passe 80% de sa vie sur la côte.
Oui, c'est presque pareil finalement.
La plupart du temps, elle se repose ou dort sans préférer une activité ni nocturne ni diurne. La loutre marine concentre son activité sur le littoral. Elle pêche surtout des crustacés comme des crabes et en seconde proie des petits poissons et des mollusques. Les études montrent qu'elle capture plus de poissons au nord et plus de crabes au sud de son aire de répartition.
Ouais, c'est étonnant.
Oui. La loutre marine paraît tolérer assez facilement la présence humaine, même si les humains et principalement les pêcheurs la pourchassent, considérant qu'elle serait une concurrente. Ce qui est évidemment pas le cas, car elle chasse des espèces bien plus petites que les espèces pêchées par les humains.
Oui, en fait, Marie-Lou, j'ai vu que des études génétiques de l'ADN mitochondrial ont montré que la loutre marine du Chili provenait d'une espèce très, très proche, hein, le Lontra provocax, avec une différence assez récente, probablement due à la séparation de populations autour de la cordillère des Andes. Donc celle qui est restée du côté est de la cordillère des Andes est devenue Lontra provocax, et celle qui est passée à l'ouest, sur les côtes du Chili, donc est devenue Lontra felina. Alors il y a deux grandes souches, deux haplotypes, on dit en génétique. L'une qui provient plutôt de l'équateur, enfin qui vit plutôt de l'équateur et du Pérou, et l'autre qui s'est différenciée plutôt au Chili. la souche nord étant la plus diversifiée génétiquement. Et puis ces deux lignages sont assez séparés par des barrières géographiques, puisqu'il y a des longues plages de sable entre les deux, alors qu'elle préfère plutôt les côtes rocheuses, ce qui entraîne une divergence assez forte. Donc on pourrait presque considérer que chez cette espèce qui est assez rare, il y a malgré tout presque deux sous-espèces, ou deux en tout cas très importantes sous-populations. En outre, les populations sont évidemment très menacées par la réduction du territoire, par la colonisation humaine, mais également par les activités volcaniques, notamment celle de 2011,
qui a beaucoup
diminué les populations.
Oui, et puis Terry, il existe aussi une autre espèce de loutre qui vit dans l'océan, c'est la loutre de mer Enidra lutris, qui occupe le Pacifique, depuis les côtes japonaises et les côtes aléoutiennes, canadienne, et qui descend jusqu'en Californie.
Ouais, alors pour la petite histoire, c'est étonnant de voir que dans le Pacifique, il y a deux loutres de mer, alors qu'en Atlantique, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous là-dedans.
Και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς. Με πικραίνεις αν ξένα με κοιτάς και στο ρέμα με τραβάς. Με πικραίνεις αν ξένα με κοιτάς και στο ρέμα με τραβάς. Σφάλμα να σε παντρευτώ. Με προτιμείς και πρέπει να σε βρει την όρια σοβαρή.
Pestisilati par les ports étrangers. Nous sommes, vous êtes sur Radio Libertaire, une radio associative pas comme les autres, et dans cette émission scientifique faite pour les aventuriers de l'esprit, science sans liberté, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Alors, Marie-Lou, nous venons juste d'aborder l'existence d'autres espèces de loutres, et notamment de la loutre de mer, qui va nous emmener dans les méandres du début de la vie sociale. Il s'agit de Enidra lutris, la grande loutre de mer, celle qui vit sur une vaste zone du Pacifique Nord, qui va donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, des côtes californiennes jusqu'à l'île d'Hokkaido. En fait, c'est une grande répartition, mais un petit peu hachée.
Oui Thierry, la loutre de mer est bien connue par sa petite bouille d'ourson marin avec la mère qui porte son bébé sur le ventre. C'est une espèce purement marine qui occupe l'océan Pacifique en petits groupes. Ces sympathiques loutres sont assez célèbres après qu'une chasse intensive pendant plus d'un siècle a mené l'espèce au bord de l'extinction. Elle est maintenant protégée aux États-Unis et au Canada. La loutre de mer passe toute sa vie en mer, nageant sur le dos au milieu des forêts de kelp. C'est une sorte d'algue géante dans laquelle elle s'enroule la nuit pour dormir. Mais cette loutre, elle est célèbre aussi par le dessin animé qui est sorti l'année dernière, dont je ne citerai pas le nom. Hein.
Non.
C'est le, voilà, la vie d'un poisson qui est amnésique.
Ah oui, voilà. On comprend bien. Voilà, un petit peu bleu. Voilà.
Je pense que tous les enfants connaissent cette loutre et ce qu'elle peut, du coup.
Oui, d'autant qu'elle est vraiment très sympathique, elle a vraiment effectivement tout ce qu'il fallait pour faire d'elle un bon personnage. L'aspect extérieur est assez différent des autres loutres en fait, parce qu'elle est beaucoup plus ronde, elle a la queue beaucoup plus courte, une fourrure épaisse de petit ourson hein, avec un ventre plus clair. Son corps est tout arrondi parce qu'il est adapté aux températures de l'océan, c'est d'écologie, mais ça fait très bien pour déclencher chez nous un petit réflexe de tendresse. Elle chasse les oursins et les étoiles de mer, mais elles mangent principalement des mollusques, des bivalves et des gastéropodes, et notamment les clams, qui sont de sorte de grandes palourdes. La loutre de mer sait comment casser l'épaisse coquille des clams en utilisant pour cela un outil.
Oh, alors, mais lequel ?
Eh bien voilà, elle va chercher un galet qu'elle pose sur son ventre. C'est une manière de faire qui est un peu étonnante. Et là, elle prend le clam et elle tape sur le galet. Donc elle utilise comme cela donc, le galet comme une sorte d'enclume. Elle l'ouvre, enfin elle le casse et elle le déguste ensuite. Alors en fait, dans la réalité, beaucoup de loutres savent utiliser des outils. On sait par exemple pour la loutre centrée d'Asie qui est capable de casser les crabes ou même de se gratter avec un galet en utilisant des pierres. Hein, pour, oui, sans doute pour enlever les petites paumes mortes, tout ça. Hein, c'est un petit massage à la caille. Et on sait que quand le brouillard s'étend en mer, la loutre de mer, elle, reste plus vigilante, ne dort pas, et les mères vont porter leurs petits sur le ventre. Tout ça aussi pour éviter les attaques de requins qu'elles savent fuir. Hein. Elles savent très bien les distinguer et sont capables de se cacher dans les forêts de kelp. Alors ce sont des groupes, hein, les loutres de mer vivent en groupe, qui généralement sur une côte d'environ 25 km, en passant, elles, 45% de leur temps à la pêche aux oursins et aux clams.
Et les loutres de mer forment des groupes sociaux importants ?
Eh oui, Marilou ! Chez les loutres de mer du prince William en Alaska, par exemple, il y a une ségrégation spatiale au sein de la population. Alors certaines sont situées à l'avant du territoire de la population, qui grandit d'ailleurs, et ces parties-là vont être réservées plutôt aux mâles. 97% de mâles se retrouvent dans ce coin-là.
Ah oui.
Alors que d'autres sont plutôt des terrains de reproduction, où là, il y a moins de mâles, hein, à peine 33% dans le cas les meilleurs. Les accouplements ont lieu toute l'année, mais c'est particulièrement le cas en septembre et en octobre. Après la saison de reproduction, tous les mâles qui étaient avant territoriaux pour préserver un peu la capacité d'atteindre les femelles vont aller ailleurs hein, et retournent dans les régions qui sont réservées en quelque sorte aux mâles. En général, la nourriture y abonde. Donc les jeunes mâles en dispersion vont rentrer dans ces territoires-là et demeurent là jusqu'à l'âge de la reproduction, formant avec les adultes des groupes qui peuvent atteindre plus de 50 individus. Donc on voit qu'il y a un grégarisme qui favorise les interactions sociales et qui probablement va rendre plus efficace la recherche de nourriture.
Mais en fait, Thierry, la vie sociale des loutres existe aussi chez les loutres dites de rivière.
Ah bon ?
Ainsi, la loutre néotropicale ou lobito des rios, rio qui veut dire rivière en portugais, ou lontra logicodis, cette espèce de loutre vit près des fleuves d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, s'étendant du nord-est du Mexique jusqu'à la province de Buenos Aires en Argentine. Elle pêche très tôt le matin.
Ah bah faut toujours aller tôt pour aller à la pêche, hein, c'est normal.
Ah bah faut toujours y aller tôt, oui. Se nourrit de poissons, d'écrevisses, occasionnellement d'oiseaux et de petits mammifères, et vit en petits groupes, une femelle avec un ou deux jeunes, dans les eaux vaseuses ou stagnantes.
Alors c'est cette espèce que tu vas étudier prochainement, donc tu pourras nous raconter si effectivement le petit groupe familial tient le coup très longtemps et comment les jeunes se dispersent. On en reparlera de toutes tes découvertes à ton retour du Brésil dans une prochaine émission, c'est promis.
Oui Thierry, car la loutre néotropicale n'est pas aussi connue que d'autres espèces et on manque d'informations sur les populations. Il y a aussi la loutre géante du Brésil qui vit en groupes familiaux, ce qui montre que les loutres savent tolérer leurs congénères et même fabriquer des petites sociétés.
Oui, tu as tout à fait raison, Marilou. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir comment s'effectue la formation des groupes. Et ça dépend d'une espèce à l'autre, mais ça nous donne des informations assez essentielles sur l'écologie de l'organisation de la vie sociale. Alors par exemple, on peut prendre le cas de la loutre de rivière américaine.
D'accord, Lontra canadensis, la loutre de rivière qui vit au Canada et aux USA, elle semble au premier abord être assez semblable à la loutre rivière d'Europe, qui mène plutôt une vie solitaire.
Alors oui et non, car on va voir ici des choses bien étranges. D'abord, les animaux vraiment solitaires, ça n'existe pas. Hein. En biologie, on le sait tous, les loutres savent très bien identifier leurs partenaires sur une rivière. Elles reconnaissent l'odeur de Marie-Louise qui est dans un coin et qui est différente de l'odeur d'Hubert qui est dans l'autre. Enfin bref, toute leur vie apparemment solitaire est en fait une vie sociale qui est basée sur un ensemble d'interactions indirectes où là, comme tu l'as noté tout à l'heure, les épreintes ont un rôle principal, hein, c'est des relations olfactives. Donc une loutre connaît ses voisins même sans les voir. Il existe donc des relations sociales. Mais il en existe d'autres pendant l'ontogénèse, c'est-à-dire quand la mère est avec les petits ou quand le père vient demander à maman si elle est disponible pour faire une petite sexualité, voilà. Et donc bien entendu, cette activité oblige à des relations sociales entre les adultes, même s'ils vivent solitaires. Donc on ne peut pas dire que les loutres vivent une vie solitaire, mais plutôt individualiste.
Oui, enfin, après, moi en tant que psychologue, je me pose quand même une question. C'est quand même différent d'une vie sociale où les individus forment de vrais groupes sociaux.
Ah oui, c'est vrai. Mais on va regarder la loutre d'Europe, Loutra loutra, qui est considérée comme solitaire. Eh bien, des échantillons d'ADN ont été extraits des épreintes déposées. On peut extraire de l'ADN, surtout mitochondrial. Et on a pu identifier génétiquement que plusieurs individus, une dizaine par exemple, pouvaient marquer sur le même lieu. C'est principalement le cas pour des loutres d'eau douce qui vivent alors plutôt sur les côtes d'Espagne ou les côtes d'Écosse, c'est-à-dire qu'on les trouve plutôt sur les côtes rocheuses. Là, les loutres vivent en petits groupes de résidents qui comportent quelques individus jusqu'à 12 adultes et parfois 20 à 25 passagers. C'est souvent des subadultes qui vont ne pas rester parce qu'ils sont nés dans le coin, ils vont se disperser après, oui. Ou bien ils passent juste pour voir maman et lui dire bonjour.
Ce sont généralement des loutres qui appartiennent à une même famille ?
Alors, pour le moment, c'est ce qu'on a pu déterminer, mais ce sont des loutres qui appartiennent au même groupe familial ou alors des jeunes qui vont rester avec leurs parents. Mais comme on l'a évoqué, c'est encore plus intéressant chez Lontra canadensis, la loutre de rivière du Canada, enfin la loutre américaine. Là, il y a eu une étude des relations sociales qui a mis en évidence que c'est bien plus le taux de testostérone qui éloigne les individus. Hein, en gros, on se plaît plus trop, on se bat un peu. Mais leur parenté génétique n'est pas du tout corrélée avec leurs affinités sociales. C'est-à-dire que les relations sociales ne sont pas liées à une parenté familiale. Bien entendu, la parenté va jouer un rôle, mais beaucoup plus que la parenté, ce sont les relations sociales vont être influencées par la familiarité entre les individus. On s'écoute, on est copains, on est amis, on va rester ensemble. Le maintien des groupes va dépendre après de la reproduction, car les animaux les plus âgés vont avoir un rôle assez important dans la tolérance entre les individus, souvent d'ailleurs, on va dire, dans la contre-tolérance. Hein, un adulte va ou non supporter la présence des autres.
Oui, c'est ça.
Chez les carnivores, en fait, on peut voir que les groupes sont souvent composés d'individus génétiquement liés, mais le vieillissement collectif va aussi offrir des avantages qui vont donc devenir indépendants de la parenté, puisque les individus les plus tolérants, les plus sympas, les plus familiers vont rester ensemble.
Donc là, tu veux dire que les animaux qui sont vieux facilitent la vie commune.
Ah oui, les vieux, ça facilite toujours la vie commune.
Ah mais et là, j'ai rien dit. Hein.
Enfin, c'est pas tout à fait aussi simple. On va dire qu'ils contribuent à la tolérance sociale pour plusieurs raisons, et notamment chez Lontra canadensis, parce que comme ils sont un peu plus âgés, ils vont avoir aussi moins de chances de se battre. Hein, ils ont moins de chances de gagner. Et puis, ils sont plus habitués à tous les conflits, ils savent un peu mieux chercher à les résoudre. Alors, en utilisant l'analyse des microsatellites d'ADN et de la radiotélémétrie, des chercheurs canadiens ont pu rejeter l'hypothèse selon laquelle les groupes sociaux de loutres étaient basés sur la présence des parents. En outre, on n'a jamais trouvé aucune indication d'évitement des parents, comme on l'attend. Hein. Si les jeunes font se disperser, c'est souvent parce que les parents les virent, du moins c'est ce qu'on supposait auparavant, et qu'il y avait une concurrence locale qui était assez élevée. En revanche, l'âge des animaux intervient pour réduire les conflits. La socialité des groupes de loutres n'a conféré dans l'étude aucun avantage ni en termes de coûts de reproduction non plus. Et le nombre de descendants et le nombre de parents ne diffèrent pas lorsqu'on regarde les animaux qui vivent socialement et les animaux qui vivent de manière solitaire, individuellement. Donc on peut dire que la sélection sexuelle ne va pas masquer une corrélation potentielle entre la socialité et la réussite de reproduction, pas du tout. Parmi les loutres côtières de cette région canadienne, la socialité va s'expliquer plutôt par des bénéfices qui sont obtenus grâce à la recherche coopérative de poissons pélagiques. Ce sont des chasses collectives, et c'est cet avantage qui ne nécessite pas d'association forte avec les parents. Ça peut marcher entre individus familiers, ce qui n'entraîne aucune pression de sélection parentale pour les groupes.
Alors l'âge interviendrait donc comme précurseur de cette vie sociale. Mais il existe aussi une différence entre les sexes.
Oui, Marie-Lou, d'une manière assez contradictoire avec ce qu'on pouvait supposer. Car en fait, les femelles sont moins sociales et ne passent que 40% de leur temps dans les groupes, alors que chez la plupart des autres espèces de mammifères, c'est souvent les femelles qui fabriquent la vie sociale. On en a même fait une émission un peu sur ce sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'elles évitent les groupes ? Parce qu'elles élèvent leurs petits. Et comme elles élèvent leurs petits pendant longtemps, évidemment, elles vont éviter les groupes pour éviter les conflits. En revanche, les mâles de loutre, qui sont beaucoup plus sociaux, vivent plus de 65% de leur temps ensemble pour former des groupes de chasse où chacun apprend des autres. C'est souvent des jeunes au départ, mais il y a aussi des vieux qui vont permettre à tous d'avoir un apprentissage de la prédation avec la pêche collective. Et cette pêche collective qu'on apprend va conférer un véritable avantage aux animaux quand ils chassent en groupe, notamment pour les petits poissons qui sont dans les côtes rocheuses, où là, on peut évidemment se rassembler, fabriquer en quelque sorte une nasse de pêche avec les individus regroupés les uns avec les autres. Et lorsqu'elles n'élèvent pas des jeunes, on voit que les femelles, qui d'habitude sont moins sociales, vont venir se joindre à ces mâles pour se nourrir de manière coopérative, en chassant elles aussi des poissons pélagiques. Donc les chercheurs supposent que la tâche d'élever des jeunes est assez fastidieuse et qu'elle empêche les femelles de rejoindre les groupes.
Alors, en plus des facteurs individuels, comme l'âge, les facteurs de l'environnement facilitent la vie sociale et la formation des groupes.
Oui. Alors Marie-Lou, en effet, on va retrouver des influences de l'environnement chez beaucoup d'espèces. Ainsi, chez la loutre marine du Chili, la Lontra felina, bien que l'espèce va pêcher surtout des crabes et des petits crustacés sur les côtes rocheuses, elle montre localement des regroupements en petites familles, alors que d'habitude, les individus vivent plutôt seuls. On pense aussi que c'est pour fréquenter les zones où les vagues sont les plus calmes, sans courant, avec moins de requins, qu'elles vont se retrouver plutôt ensemble. On voit que les facteurs de l'environnement vont donc influencer la présence ou non de la petite famille. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que ces loutres marines vont se rapprocher des villages de pêcheurs, parce qu'il y a moins de vagues, moins de prédateurs, des brises de lames, etc. Bien que, évidemment, ça puisse poser un petit problème avec la présence des pêcheurs qui peuvent les chasser. Mais c'est l'une des clés d'une vie sociale harmonieuse, c'est qu'il y a des facteurs de tranquillité et de familiarité entre les animaux. Alors, on a vu que c'était le cas aussi bien pour les loutres de mer de Californie que pour les loutres de rivière du Canada.
Cartouche nous chantait Avenir.
De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, dans cette émission précieuse de Science en Liberté. Une émission scientifique sur une radio associative, pas comme les autres, où nous décortiquons aujourd'hui les bases mystérieuses de la vie sociale, sans Dieu, sans maître et sans publicité, et en nageant avec les loutres. Eh bien, Marie Loutre, il semble que tu aies raison de t'intéresser aux loutres. Les loutres paraissent en effet des animaux bien fascinants et elles éclairent la qualité des eaux douces, mais elles vont aussi nous donner des clés pour comprendre l'écologie de la vie sociale.
Merci Thierry de m'appeler Marie Loutre. L'ensemble des variations de la vie sociale illustre que le terme vie sociale en lui-même recouvre des situations bien différentes, parfois même nommées vie solitaire. Puisque les animaux ont toujours une petite idée de la présence de leurs congénères à travers les marques olfactives de leur territoire.
Eh oui, Marie-Lou, si on veut comprendre la vie sociale, il faut admettre qu'elle s'inscrit dans un gradient, dans une échelle de vie. Il n'y a pas d'un côté les animaux sociaux qui s'opposeraient aux solitaires, mais bien au contraire un gradient qui va d'une vie assez solitaire, individualiste on pourrait dire, jusqu'à des animaux qui vont former des groupes sociaux en passant par le groupe familial, l'association. Tout ça à travers des degrés de philopatrie, c'est-à-dire de tolérance sociale selon qu'on reste dans le domaine où on est né ou qu'on s'en aille ou qu'on se disperse, et jusqu'à une possibilité même de reproduction collective. Alors la philopatrie par exemple, le fait de rester proche de ses parents, est un facteur qui dépend de la tolérance des autres, mais aussi de la présence de ressources. Et la philopatrie peut favoriser l'approche ou même l'inclusion d'individus qui ne sont pas apparentés.
La vie collective possède aussi des particularités essentielles. Ainsi, les espèces de loutres qui vivent en groupe montrent des comportements de sentinelles, ce qui démontre une certaine coopération et pour le moins une forme de vie sociale harmonieuse.
Eh oui, Marie Loutre, il existe au moins 3 espèces de loutres qui vont inclure des comportements d'aide aux autres, ce qu'on appelle les helpers en anglais. Parmi ces aides aux autres, eh bien, il y a la surveillance collective pour essayer de protéger les jeunes, la chasse collective, le partage de nourriture, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on apprend à manger, à couper la tête du poisson, etc. Et puis, bien sûr, la défense des jeunes. Et tous ces comportements peuvent être réalisés aussi bien par des adultes non apparentés que par des jeunes. On trouve par exemple des aides et des pêches coopératives chez la loutre géante du Brésil, chez la Lontra canadensis dont on a parlé, ou encore chez la petite loutre cendrée d'Asie, à Onyx cinerea, qui partage son nid et dont les jeunes apprentis sont éduqués par les adultes. On peut penser que la formation des groupes sociaux est facilitée par ces intérêts sexuels, écologiques et comportementaux qui vont refléter l'histoire de vie de chaque espèce. En fait, il faut bien comprendre que le comportement va avoir ici un élément essentiel, le fait d'apprendre auprès des adultes comment on tue un scorpion, comment on mange un poisson, comment on décortique un crabe, est évidemment essentiel, même si ça n'apparaît pas être évident. Comportementalement, les activités sociales vont donc devenir coopératives. Quand on a vu le faire chez un autre, on peut l'expliquer, on peut le faire ensemble, et ça va s'avérer beaucoup plus efficace, notamment pour la pêche, mais aussi, bien sûr, pour apprendre les choses de la vie sociale, éduquer les autres à ne pas embêter les adultes, à ne pas mordre leur queue, tout un ensemble d'éléments importants. Quand on joue, les conditions d'environnement vont aussi entraîner le regroupement des individus dans des lieux qui sont assez riches en nourriture, on dit des zones à haute valeur trophique, hein, quand on parle scientifique. Et dans ces zones-là, évidemment, ça va favoriser leur réponse et leur coopération pour détecter des prédateurs, pour échapper à de mauvaises conditions de vie. Et la vie sexuelle va aussi participer à la formation de groupes familiaux si les parents restent ensemble pour s'occuper des petits et que les jeunes ne se dispersent pas. Ainsi, le terme vie sociale peut être vu comme reflétant une série de situations parfois très différentes, avec chaque étape qui va construire plus socialement encore et dans des groupes qui vont être plus ou moins permanents.
Oui, il y a le groupe familial, la mère et ses jeunes, mais aussi le groupe familial étendu quand des animaux s'incorporent sur plusieurs générations, le groupe coopératif avec des aides, les congrégations regroupant les mâles pour la chasse, et même les individus en groupe lâche où chacun chasse pour lui-même, mais où tout le monde se regroupe parfois.
Oui, c'est un peu comme chez le blaireau, en fait, où chacun va manger son petit verre de terre, mais revient après dans la bande. C'est une logique de gradient, hein, une logique de gradient social, et c'est beaucoup plus dynamique que de parler d'une vie sociale, d'une vie solitaire. Ça permet d'éviter des notions ambiguës, qui sont d'ailleurs souvent fausses, comme on a inventé des catégories subsociales, ou encore le social groups, ou encore, bien sûr, la vie solitaire, dont on a vu qu'elle était relativement plus sociale que ce qu'on pourrait croire. La plupart du temps, la formation des groupes n'est pas permanente, elle autorise les individus à fluctuer, à passer d'un groupe à l'autre, ou à se séparer, ou à se rassembler par affinité, par exemple, plus ou moins ponctuellement. Alors ça permet de former des rapprochements à cause de conditions extérieures, hein, par exemple. Ici, c'est un certain opportunisme qui va faciliter la formation du groupe. Mais c'est aussi en fonction des affinités, et surtout du degré de familiarité des individus. Quand on devient copain, on a tendance à rester plus souvent ensemble pour coopérer. C'est là qu'intervient l'importance de se reconnaître, de se connaître, et même à travers des relations parfois très indirectes, comme par exemple les marquages olfactifs.
Les marquages olfactifs, eh oui. Et puis, il y a aussi l'ontogénèse, les interactions qui définissent la place de chaque individu dans le groupe sont développées au sein du groupe familial.
Oui, au cours de l'enfance,
oui. Oui, les habitudes solitaires diffèrent du groupe familial car les jeunes restent dans le groupe familial jusqu'à atteindre la maturité sexuelle, alors que les jeunes doivent quitter leur mère et se disperser peu après leur sevrage lorsqu'ils vivent une vie solitaire. Les loutres de rivière ont de larges préférences d'habitat, mais alors que les loutres de rivière européennes et nord-américaines présentent généralement des habitudes solitaires et une alimentation opportuniste lorsqu'elles habitent des rivières et des cours d'eau, mais elles forment des groupes quand la loutre de rivière nord-américaine et la loutre européenne exploitent des côtes rocheuses, de sorte que la socialité est liée aux caractéristiques de l'habitat et à l'acquisition de la nourriture.
Oui, ce qui est parfois paradoxal, parce que dans un esprit darwinien, on pourrait penser que l'exploitation d'une même ressource devrait augmenter la concurrence. Or là, on voit bien que c'est au contraire, parce que la ressource est assez riche, assez présente, et que les animaux ont des affinités entre eux, que les loutres de rivière, par exemple nord-américaines, vont davantage s'associer. Ça va coïncider à la fois avec la disponibilité des poissons, et un grand nombre d'individus peuvent faciliter la capture lors d'une pêche coopérative.
À l'inverse, Thierry, on a constaté que la Lontra logicodis, ou loutre fluviale néotropicale, la loutre d'Amérique du Sud, Lontra provocax, et la loutre sans griffe congolaise présentaient, elles, des habitudes solitaires liées à la dispersion des proies, en exploitant des ruisseaux linéaires d'eau douce, boisés, des rivières et des lacs. Enfin, et bien que ce soit probablement le cas dans d'autres espèces de loutres, les loutres de mer sont connues pour former, de manière opportuniste, une congrégation de loutres célibataires et un groupe instable mixte appelé groupe pélagique, d'une douzaine à un millier d'individus, principalement parce qu'ils sont exposés à des prédateurs marins.
Ah oui, en effet, ça facilite de beaucoup la surveillance de ces prédateurs. Et Marilou, bien que ces animaux vivent solitairement, ils peuvent donc se rassembler de manière opportuniste dans des agressions dites mixtes, hein, c'est le groupe mixte instable, pendant quelques heures ou quelques mois, en réponse à la présence de prédateurs ou parce qu'il y a une ressource qui est particulièrement abondante de manière temporaire. Ces groupes instables sont composés principalement de femelles ou de juvéniles, et parfois d'un groupe familial peut également se joindre temporairement à un groupe instable. Dans le groupe familial, les juvéniles vont se disperser lorsqu'ils atteignent leur maturité sexuelle, alors que le groupe familial étendu va regrouper même plusieurs générations. C'est-à-dire qu'on attend même après sa maturité sexuelle, on peut rester dans le groupe. Les mâles peuvent aussi être encouragés à participer à un groupe ou même à former des groupes de célibataires lorsque la concurrence pour les ressources trophiques est assez restreinte et quand les femelles ne vont pas trop loin. Parce qu'évidemment, du coup, la chance de trouver un partenaire est meilleure si on n'est pas trop loin du groupe familial étendu que si on commence à vouloir courir le guidou. Mais la philopatrie et la dispersion qui est à la fois qui est retardée va entraîner une certaine compétition sexuelle. Donc du coup, les subordonnés peuvent être amenés à devenir des aides au lieu de se reproduire eux-mêmes. Ils vont être les helpers du groupe pour permettre le maintien. Ils vont préférer rester dans le groupe pour apprendre et former un groupe hautement social avec des adultes qui se reproduisent, des assistants, des surveillants. Et toutes ces structures-là vont leur permettre d'avoir des relations sociales qui vont impliquer différents degrés de conflit entre les individus et même avec ceux qu'on pourrait apparaître comme des dominants. Alors, les aidants doivent participer à l'élevage de la progéniture, mais ils peuvent individualiser l'art de se nourrir, ou au contraire, ils peuvent s'arranger pour ne pas être présents tout le temps. Bon, tout cela peut conduire à des chasses collectives, qui vont devenir coopératives selon la disponibilité des proies, la taille des proies, la difficulté de les atteindre, et la manière dont les individus ont appris à chasser, avec la chasse aux petites proies qui va entraîner plutôt des chasses individuelles, mais avec des adultes éducateurs des plus jeunes, parce que les proies différentes nécessitent des types de captures différentes, et il faut apprendre hein, tout ça, on ne capture pas un poisson comme un autre. Les grosses proies sont plus facilement capturées au cours d'une chasse coopérative, mais ça peut aussi donner lieu à des relations plus fermes et plus durables, parce qu'évidemment, il faut être bien conscient d'une certaine coïncidence entre le prédateur et la proie, donc une coopération est importante. On voit donc qu'il existe différents niveaux de familiarisation entre les individus qui vont favoriser les attaches, les collaborations, les affinités. Et puis enfin, les individus qui se dispersent peuvent aussi mener une vie solitaire. En fait, à un moment donné de leur vie, ils peuvent se montrer individualistes, aller voir un peu comment les choses se passent ailleurs, faire un voyage toute seule au Brésil, enfin des choses comme ça.
Oui.
Voilà. On voit que cette théorie qui est séquentielle de la formation des groupes sociaux, elle va tenir compte de ce qu'on appelle la dynamique fusion-fission, qu'on retrouve chez beaucoup de groupes, hein, où les groupes sont alimentés par des individus autonomes qui vont et qui viennent en fonction de conditions propres ou d'affinités particulières. On va retrouver ça par exemple chez le singe attel en Amérique du Sud, les girafes, certains autres singes en Afrique. Donc l'individu va être ainsi engagé dans différentes alternatives au cours de sa vie, et c'est la suite des décisions qu'il va prendre qui va donc entraîner une dynamique sociale qui est, on va dire, beaucoup plus libertaire que structurée. L'animal naît dans sa famille, il prend la décision ou non de se disperser, ou il est chassé, hein, selon le degré d'affinité. Il peut aussi se regrouper avec d'autres mâles, découvrir des activités coopératives, être éduqué, participer à la défense collective en surveillant, hein, c'est le cas des guetteurs, ou à la reproduction. Et au fur et à mesure qu'il va mener ainsi sa vie d'adulte, il va passer d'un état à l'autre.
Mais avec tout ça, nous sommes très proches d'une vue psychologique, avec la prise de décision davantage liée à des facteurs cognitifs, comme l'apprentissage ou écologique, comme la disponibilité de la nourriture. Mais chaque fois, l'itinéraire social d'un individu résulte d'un ensemble de décisions.
Django Reinhardt, Some of These Days.
Voilà, en nageant avec les loutres, toutes les rivières du monde deviennent belles et farouches. Témoignage d'une nature encore sauvage, avec des subtils équilibres des écosystèmes. Plurielles et fascinantes, les loutres glissent leur vie timide dans l'étendue d'une écologie inconnue, où l'on constate que la vie apparemment solitaire ne contredit rien d'une vie sociale. Les groupes sociaux s'alimentent de l'individualisme de chacun. À l'origine de la vie sociale des loutres, les enjeux de la dispersion loin de son foyer rejoignent la quiétude de rester ensemble. Toutes les variations de l'organisation sociale se sont édifiées à travers des décisions individuelles et répétées. En suivant les pas de ces animaux discrets, il est possible de deviner combien les sociétés proviennent de ce que chacun apporte aux autres, librement et activement. Comme toujours en biologie, les variations secrètes de l'habitat jouent un rôle qui incite chaque animal à définir ses choix, à développer ses affinités. Mais loin des seules contraintes écologiques, loin des seules pesanteurs structurelles, la vie sociale découle de choix individuels, de ce que chacun décide à chaque instant, et chaque décision gouverne des relations sociales complexes où se met en jeu le fait de rester ensemble ou de partir. Alors, à partir des interactions bienveillantes au sein d'un groupe familial où chacun trouve son origine, l'individu exerce ses choix librement. Notre vie sociale aussi ne devrait résulter que de chacune de nos décisions, librement consenties avec les autres. Mais la question sociale chez les humains est étroitement faussée, éclipsée par l'exploitation capitaliste et marchande qui nous rend si pauvres de notre vie, si perdus et si privés de nos capacités. Et cependant, la richesse humaine, la richesse qui se pratique tient tout entière dans notre langage, dans cette soif de découvrir les autres, de bavarder ensemble, cette humanité qui se pratique. C'est cette vie sociale dont nous privent les commerçants qui remplacent notre parole libre par l'argent des marchandages et le silence qui tue. Regardons les loutres de mer vivre dans l'eau vive, s'amuser d'être si complices ensemble. Elles possèdent la clé de notre trésor à venir.
Merci Thierry. Ainsi se termine notre émission de Science en Liberté. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez toujours nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, Science Libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Shahidi. Et nous terminons par Truth and Knows, Butters in Disjonet.